Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Il est impossible de comprendre la signification réelle du mariage si l'on perd de vue que la sexualité et le mariage ont été ordonnés par Dieu. En effet, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Ève fut créée égale à l'homme pour être une aide convenable pour lui, pour devenir sa femme et sa compagne. Dieu dit encore, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le but du mariage est d'épanouir l'homme et la femme moralement et physiquement. Tous deux sont destinés à vivre ensemble, à partager leur vie, les bons comme les mauvais moments, les joies comme les épreuves. Dieu avait ajouté, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Décider d'avoir des enfants, c'est s'engager à assumer la responsabilité de les protéger et de les éduquer en conformité avec la manière de vivre donnée par Dieu dans sa parole, la Bible. Un foyer ainsi qu'un mariage heureux et uni sont indispensables pour l'éducation des enfants. Le mari, bien que n'étant pas supérieur à son épouse, est le chef de la famille. Il doit occuper ce poste avec beaucoup d'amour, protéger sa femme et guider ses enfants. Chaque conjoint doit aussi procurer à l'autre joie, paix et bonheur, et tout cela avec intelligence et sagesse. Le septième commandement ordonne « Tu ne commettras point d'adultère ». Son but est de protéger l'intégrité du mariage qui reste le fondement de toute société digne de ce nom. L'adultère ne nuit pas seulement aux époux qui en sont les victimes, mais il fait un tort énorme à leur foyer, à leurs enfants. C'est un acte de rébellion envers la loi divine établie pour le bien de l'humanité. Salomon écrit « Les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. » Le commandement qui enjoint de ne pas commettre d'adultère va plus loin que d'interdire des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint. Car, à la lettre de la loi, le Christ a ajouté l'esprit de la loi, c'est ainsi qu'il déclara, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Remarquez que le Christ n'annule pas le septième commandement, il le confirme, il le magnifie, il le complète. Bien que très court, ce septième commandement est détaillé dans de nombreux passages bibliques. En voici quelques-uns. Celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Nul de vous ne se rapprochera de sa parente. Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras point avec une bête pour te soulier avec elle. Le but de ce commandement n'est pas seulement de protéger le corps physique de l'homme des malédictions, des maladies sexuelles et autres, qui seraient inexistantes si cette loi était observée. Son but est de protéger également l'esprit de l'homme, continuellement sollicité à notre époque par certains films, certaines littératures et publicités. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Bible nous transmet le récit d'adultère, de bigamie, de polygamie? L'apôtre Paul nous en donne la raison. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Le premier exemple de bigamie survint au sein de la descendance de Caïn. La Bible raconte, Lémec prit deux femmes. le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tzila. Lémec fut le premier à transgresser l'ordre divin qui déclarait « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Cet ordre n'était pas pour Adam et Ève, car ils n'avaient ni père ni mère physique, mais il concernait leur descendance et il garde encore toute sa valeur de nos jours. Le livre de la Genèse est très condensé et ne relate que les événements principaux. Toutefois, il semble que Lémec ait perdu la protection divine à un moment donné, car il craignait d'être tué. Abraham, que l'apôtre Jacques appelle l'ami de Dieu, ne fut point polygame. Tant que Sarah et son épouse vécut, il n'épousa pas d'autres femmes. Cependant, il eut un fils illégitime d'Agar, la servante égyptienne de Sarai. Il s'agissait bien entendu d'un adultère. C'était une transgression de la loi, un péché. Souvenez-vous que Sarah était stérile, ce qui était un opprobre à l'époque. Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. À la lecture de ce récit, nous pouvons supposer qu'Agar était une jolie femme et la tentation inévitable, d'autant plus que c'était Sarai qui poussait sa servante dans le lit de son époux. Cette tentation l'emporta sur Abraham. Abraham lui-même n'était pas sans péché. Toutefois, il n'avait pas une mauvaise attitude. Il voulait obéir à Dieu, mais il succomba à la tentation et manqua de force spirituelle. Dieu refusa à Ismaël, le fils illégitime, le droit d'aînesse, et cette faiblesse d'Abraham n'amena que discussion, souffrance. Il naquit une jalousie féroce entre Sarai et Agar. Cet adultère si lointain est à l'origine du conflit entre Arabes et Juifs. Lisez le récit au chapitre 21 du livre de la Genèse. La Bible relate « Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Après sa mort, Abraham épousa Kétura. Il s'agissait là d'un mariage conforme à la loi divine. Il n'y avait pas ici d'adultère. » Isaac, lui, fut-il polygame? La Bible ne mentionne aucune autre épouse que Rebecca, ni de concubine, ni d'adultère en ce qui le concerne. Rebecca était stérile, tout comme l'avait été Sarah, sa belle-mère, mais Isaac ne suivit pas l'exemple d'Abraham et de Sarah. Il ne se laissa séduire par personne. Il plaça sa confiance en Dieu. L'Écriture dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Dieu trouvait préférable que Jacob reçoive le droit d'aînesse au lieu d'Ésaü, son frère aîné. Cependant, avant sa conversion, il ne fit pas confiance à Dieu. Il subtilisa le droit d'aînesse tortueusement, mais il fut trompé à son tour par son beau-père Laban, qui évinça la femme qu'il souhaitait épouser, Rachel, qui lui était promise, au profit de Léa, plus âgée, qui, elle, lui fut frauduleusement imposée. Lorsqu'il se rendit compte de la supercherie, Jacob aurait pu la répudier, mais en l'acceptant, elle devint sa seule épouse aux yeux de Dieu. Par la suite, Jacob succomba à ses convoitises et finit par avoir deux femmes, qui étaient deux sœurs, ainsi que des enfants avec leurs servantes. Plus tard, Jacob comprit ses erreurs, il se repentit et se convertit. C'est alors que Dieu prit sa seconde femme, Rachel, ne lui laissant que Léa. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Le roi David eut lui aussi plusieurs femmes. Après avoir commis l'adultère avec Bathsheba et fait tuer son mari Uri, il se repentit, mais Dieu le punit et lui envoya le prophète Nathan pour lui dire « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David était roi, et il méprisa non seulement les commandements, mais Dieu lui-même. Dieu avait interdit au roi d'Israël d'être polygame, comme les rois des nations environnantes, en disant, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, et que tu diras, « Je veux mettre un roi sur moi, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. » David méprisa Dieu en prenant Bathsheba pour épouse. À cette époque, la maison de David était composée de quelques femmes et de leurs enfants. Par la suite, ces femmes furent déshonorées, et David prit alors des dispositions, il pourvut à leurs besoins et elles vécurent en état de veuvage. Comme le roi Salomon le lui avait demandé, Dieu lui accorda un cœur sage et intelligent, et il lui donna la gloire et des richesses immenses. Mais vers la fin de sa vie, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Le royaume fut arraché à son fils Roboam, et Israël se détacha de la maison de David. Le royaume en fut déchiré. Au sujet de Jérusalem et de la nation de Juda, l'Éternel déclare « Tes enfants m'ont abandonné. Ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. » Semblable à des chevaux bien nourris qui courent çà et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Beaucoup plus tard, l'apôtre Paul ajoute, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La fidélité, voilà ce que Dieu demande. Malheureusement, Satan est déjà intervenu dans beaucoup de foyers, mais Dieu pardonne les fautes de ceux qui se repentent et décide de vivre en conformité avec sa loi. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Voilà le meilleur conseil que l'on puisse donner à ceux qui veulent apprendre la leçon de la fidélité dans le mariage. Si la vie sexuelle des gens reste leur affaire, nous savons que Dieu en fait son affaire. Voilà pourquoi il a tonné de sa voix puissante, « Tu ne commettras point d'adultère. »